Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. En tant que femme, et puis aussi en tant que personne qui n'est pas née dans les bons quartiers.
Nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un cœur, une sensibilité, une intelligence, une histoire.
Non, le patriarcat, il n'est pas encore à terre. Il n'est pas encore à terre. On le mettra à terre et vous nous direz merci.
Speech Society. Je suis Marielle Liberclerc, experte en prise de parole en public et coach TEDx. Avec Speech Society, j'ai voulu accompagner les femmes à porter leur voix plus haut, plus fort. Avec des tips tous les lundis dans un épisode flash pour développer votre assertivité et votre éloquence. Et une fois par mois, avec une conversation sans filtre avec des femmes connues ou à connaître dont j'estime le parcours et les valeurs. Des femmes qui empuissancent les femmes, des femmes qui prennent la parole et qui tendent la main à leurs sœurs pour qu'elles s'expriment elles aussi. Pour plus d'égalité, plus de confiance et plus de prise de conscience. Speech Society. Mon invitée du jour est une experte du networking rompue à l'animation de communautés d'alumni depuis plus de 30 ans. En 2017, elle coécrit avec Pascal Joly « Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau », un véritable manuel fort bien fait que j'ai lu et dont je recommande la lecture à tout le monde. En 2021, elle lance le Trait d'Union, un programme entre mentorat et coaching pour apprendre à activer son réseau de façon à la fois authentique et stratégique. Elle est aussi conférencière pour les entreprises qui veulent sensibiliser collaboratrices et collaborateurs à la démarche réseau. Je vous remercie d'accueillir Isabelle Stemmer. Bonjour Isabelle.
Bonjour Marielle, merci de me recevoir.
Mais moi je suis ravie de t'accueillir, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, mais tu n'es encore jamais venue sur Speech Society et je trouvais que c'était pertinent que tu viennes nous parler de la démarche réseau et du networking, d'abord parce que pour moi tu es la référence sur cette thématique et parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont encore des freins, qui ont encore des réticences et qui pensent encore que soit c'est pas pour elles, soit... C'est trop compliqué, soit c'est trop chronophage. Et surtout qu'elles ont envie d'avoir des relations qui sont des relations authentiques, désintéressées avec les autres et qu'elles n'imaginent pas entretenir des relations dans un but d'évolution de carrière, justement parce que ça pourrait manquer d'authenticité. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre à des femmes qui sont un petit peu dans cette posture-là, qui se disent « Non, finalement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi le réseautage. »
Alors, merci de poser cette question. Elle correspond à une réalité. Tu le sais bien, dans le cadre du Trait d'Union, je reçois essentiellement des femmes. Et pourquoi je reçois des femmes? Parce qu'elles éprouvent le besoin d'apprendre à réseauter. C'est vrai qu'on n'apprend pas à faire du réseau à l'école, mais je pourrais avoir autant d'hommes que de femmes, mais j'ai beaucoup plus de femmes, parce qu'elles pensent avoir véritablement des lacunes. Donc tu mets le doigt sur une problématique qui est vraiment réelle. La première chose que je dirais pour répondre à la question que tu poses, le réseautage, c'est une question de posture, en fait. On se dit souvent, quand on va réseauter, qu'on n'a rien à dire, qu'on n'est pas très intéressant, que le réseautage, c'est quelque chose d'opportuniste, on va demander quelque chose à quelqu'un qui n'a pas tellement envie de donner quoi que ce soit, on n'est pas légitime. En fait, ce n'est pas cette posture-là qu'il faut adopter quand on va faire du réseau, mais c'est la posture de « je vais, avec beaucoup de générosité, être à l'écoute des personnes que je rencontre pour savoir ce qu'elles font et ce dont elles ont besoin, et je vais me mettre à leur disposition pour leur offrir mes services une fois que j'aurai compris ce qu'elles cherchent. » Donc, en fait, il faut vraiment s'intéresser aux personnes que l'on rencontre et pas être à tout prix le plus intéressant de l'assistante. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça, c'est s'intéresser aux personnes de sorte que on puisse, d'entrée de jeu, se mettre à leur disposition et chercher ce qu'on va pouvoir faire. Peut-être qu'on va pouvoir faire une mise en relation, peut-être qu'on aura une référence par rapport à un article, un livre à partager ou une situation, un retour d'expérience à partager qui va intéresser la personne. Et dès lors qu'on a été pertinent dans ce que l'on a donné avec générosité, eh bien, ensuite, c'est beaucoup plus facile d'oser demander ce que l'on cherche. C'est vraiment s'installer dans cette posture de générosité, de s'intéresser aux autres, qui est vraiment essentielle et qui fait toute la différence.
Je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est ce qui vraiment qui te différencie par rapport aux approches dont j'ai pu entendre parler autour du réseau. C'est vraiment le fait de dire « je donne d'abord ».
je m'intéresse aux personnes, je m'y intéresse de façon sincère. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas forcément faire du réseau avec tout le monde. Il y a peut-être des gens avec qui on n'a pas d'accroche. Donc ça, je trouve ça intéressant. On n'est pas obligé de se forcer en se disant, bah, si, faire du networking, c'est collectionner les cartes de visite le plus possible dès qu'on se déplace quelque part. Ça, je trouve que c'est vraiment déjà une première chose qui peut rassurer peut-être celles qui nous écoutent et qui ont des freins. Se dire, non, l'idée, ce n'est pas forcément de réseauter de façon...
opportuniste.
Opportuniste, échevelée et un peu dans tous les sens. Mais toi, ce que tu enseignes, et je fais exprès d'utiliser ce verbe, parce qu'il y a vraiment cette posture de transmission dans ton approche, que tu enseignes, c'est vraiment d'y aller avec sa personnalité et d'y aller avec son envie aussi d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc, il y a quelque chose de très humain là-dedans et pas du tout une sorte de calcul froid et égoïste qui peut être l'image qu'on a en fait du networking.
Et puis, en plus, il faut y aller à son rythme. On est peut-être à l'aise avec certains gestes. Il y a peut-être des choses que l'on fait déjà qui nous relient aux autres. Eh bien, l'idée, c'est de mettre systématiquement un petit peu plus de liens dans tout ce que l'on fait. Déjà, ça commence par ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement inatteignable. C'est quelque chose qui est simple et qui peut, s'il est répétitif et réalisé avec son cœur, être beaucoup plus finalement efficace qu'il n'y paraît.
Est-ce que tu peux, par exemple, nous donner un exemple de ce que pourrait faire une maman, par exemple, de pré-ado qui dit « Moi, quand je rentre du travail, faut que j'accompagne mes jeunes sur les devoirs, etc. Souvent, le networking, c'est le soir. Ben, je ne vois pas où est-ce que je peux caser ça. » Tu lui réponds quoi à ce genre de personne ?
Alors, elle peut caser ça n'importe quand, en fait. Le networking, c'est tout le temps. Et ce n'est pas uniquement quand on en a besoin. Et ce n'est pas uniquement dans le cadre d'événements, une coupe de champagne à la main et autour d'un plat de petit four. Ça peut être aussi dans son entreprise. Ça peut être quand on croise des voisins, quand on va porter les poubelles ou dans l'ascenseur. Ça peut être quand on va chercher les enfants à la sortie de l'école, on va croiser d'autres parents et on entame la conversation. Ça peut être quand on va promener son chien, ça peut être aussi quand on voyage en train ou en avion à côté de quelqu'un pendant un certain temps. On ne va pas rester de marbre, peut-être qu'on va échanger deux, trois paroles. Et l'idée, ce n'est pas de parler du dernier Goncourt, hein. L'idée, c'est de parler de tout, de rien, et puis de tranquillement en savoir plus l'un sur l'autre, de sorte qu'on ait envie peut-être de se revoir et de consacrer un temps défini dans son emploi du temps à la rencontre.
Bien sûr.
Voilà, donc le networking, c'est pas systématiquement le soir, lors de grands événements, etc. C'est au quotidien, c'est dans l'entreprise, c'est des petits gestes de rien du tout qui font que on rajoute du lien à ce que l'on fait déjà et on fait attention aux gens que l'on croise.
J'adore rajouter du lien à ce qu'on fait déjà. Moi, j'adore l'expression, c'est tellement ça. Ce que tu me décris là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le networking informel. Et j'imagine que En fait, on n'y pense pas forcément.
Non.
On n'y pense pas forcément. On ne pense pas qu'en allant promener son chien tous les jours à la même heure, on va croiser des personnes qui sortent
qui
aussi leur animal. Oui, qui sont toujours les mêmes. Et que ça peut être intéressant d'échanger un bonjour et puis peut-être de mieux les connaître. Ou même dans les réunions de parents d'élèves. Enfin, les occasions de connecter sont un peu partout. C'est ce que tu m'expliques.
Mais c'est tout à fait ça. Et on ne sait jamais qui l'on croise. Et surtout... qui connaissent les gens que l'on croise, parce que c'est bien ça qui est important. C'est aussi se donner la possibilité de connecter avec d'autres personnes à travers les personnes que l'on connaît et que l'on voit régulièrement.
Quelles sont les erreurs, selon toi ? On va parler d'abord des femmes qui travaillent en entreprise, on verra les indépendantes un peu plus tard. Quelles sont les erreurs que tu vois qui sont les plus courantes des personnes, des femmes notamment, qui commencent à réseauter en entreprise ? Quels sont les faux pas dans lesquelles elles peuvent tomber de façon très régulière et que faire à la place ?
Alors, déjà, elles ne se rendent pas suffisamment visibles. Elles ont un problème avec la visibilité, les femmes, dans les entreprises en particulier, mais en général, hein, de toute façon. Elles ont aussi un sentiment d'imposture. Ce n'est pas fait pour elles. Elles n'osent pas, elles ne veulent pas déranger. Elles ont peur de ne pas avoir des choses intéressantes à dire. Et elles ne l'envisagent pas comme une stratégie pour pouvoir faire évoluer leur parcours professionnel en interne. C'est-à-dire qu'en fait, elles pensent que systématiquement, elles vont déranger. Et que finalement, ce n'est pas comme ça qu'elles vont pouvoir évoluer en interne. Alors que quand on réseaute en interne, on va chercher un mentor, un soutien, des alliances. Et elles ne pensent pas stratégie, en fait. C'est ça le problème. Elles ne pensent pas stratégie. Elles sont persuadées que C'est quelque chose qui est réservé aux hommes, d'une certaine façon. Qu'elles n'ont pas leur place dans les réseaux qui existent déjà, dans les réseaux décisionnaires qui existent dans l'entreprise, en fait. C'est ça le problème. Donc voilà, ça nécessite quand même, quand on réseaute en entreprise, d'abord d'y aller pas à pas, de se rendre visible. J'ai 2-3 petites anecdotes à raconter là-dessus. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un grand groupe de nettoyage industriel et j'ai fait du réseau sans le savoir, je me suis rendue visible sans le savoir. En fait, je me suis proposée pour candidater donc au comité d'entreprise, pour représenter les cadres, puisque en fait, la direction avait besoin d'un représentant pour les cadres. Donc j'étais le suppôt de la direction. Il a fallu que je m'inscrive à un syndicat, machin, etc. Bon, ça me correspondait à peu près, donc j'ai dit OK. Et puis, donc, j'ai été élue au comité d'entreprise. Et au sein de ce comité d'entreprise, j'ai levé le doigt pour me charger de l'organisation des voyages du personnel. Ce qui veut dire que j'étais en contact avec tous les échelons hiérarchiques possibles et imaginables, que ce soit au siège, que ce soit en agence, et ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et puis après, au sein du comité d'entreprise, on a créé une gazette, à l'époque il n'y avait pas encore d'internet, hein, donc, qui était diffusée au siège et dans les agences, une fois par trimestre, et j'ai levé le doigt pour être rédacteur en chef. Ce qui veut dire que j'allais faire des interviews à droite, à gauche, de personnes qui avaient des fonctions diverses et variées. Je suis partie à la découverte des gens qui travaillaient dans les agences. Et au bout d'un certain temps, tout le monde me connaissait. Alors, être visible, ça ne veut pas dire systématiquement être à tous les pots de départ en retraite, machin, etc. C'est être volontaire, proactive pour participer à des projets et y être partie prenante. Mais ça veut dire aussi être à l'affût des informations qui circulent. Et ça, elles ne le font pas forcément très bien, les femmes.
Oui, ou elles pensent quelque part que leur talent, leurs compétences, leur force de travail va parler pour elles.
Oui, ou qu'on viendra systématiquement les chercher parce que c'est ce sont les bonnes personnes, le syndrome de la bonne élève, hein, bien sûr. Oui. Alors que ce n'est pas évident.
Non.
Si tu ne démontres pas que tu es la personne qui correspond à ce projet, y aura peut-être d'autres personnes qui auront plus une grande gueule que toi et qui pourront récolter le gros lot. Hein.
Oui, tout à fait. Et il y a une chose aussi, tu en as parlé tout à l'heure et j'aimerais bien revenir dessus parce que je trouve que c'est entre guillemets un défaut de posture que je vois de façon très courante chez les personnes qui commencent à réseauter. C'est que moi, j'entends des personnes qui me disent « Ah ben là, j'ai envie d'évoluer, etc. Donc là, je vais me mettre à réseauter. » Et je sais que toi, tu dis « En fait, quand on a besoin du réseau, c'est déjà trop tard pour réseauter. »
Bien sûr. En fait, il faut réseauter tout le temps, pas uniquement quand on en a besoin. Pourquoi ? Bien, d'abord, parce que si on réseaute que quand on en a besoin, on va être considéré comme quelqu'un qui prend et non pas comme quelqu'un qui donne, qui est la bonne posture à adopter quand on est un parfait networker, d'accord ? Donc, on sera mis très rapidement au banc de la communauté ou de l'entreprise ou de l'organisation. Parce que rapidement, on va s'apercevoir que t'es là uniquement quand on a besoin. Donc, du coup, au bout d'un certain temps, on sait que de toute façon, il n'y a rien à tirer de toi. Voilà, on ne va plus t'adresser la parole. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si tu n'en fais que quand tu en as besoin, eh bien, le réseau, il ne va pas forcément être efficace et réactif. Alors que, effectivement, si tu en fais tout le temps, c'est comme une seconde nature, une seconde peau, eh bien, la réactivité sera au rendez-vous. Dès lors que tu auras besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut donner de soi-même pour pouvoir après oser demander ce que l'on cherche.
Oui.
Donc, au moment où tu as besoin de quelque chose, il va falloir que tu oses demander ce que tu cherches, sinon le réseau ne pourra pas te l'apporter. Donc, ça veut dire qu'avant, il aura fallu, quand tout ira bien pour toi, que tu aies activé ton réseau et que tu aies été généreux, généreuse dans ton réseau. Et comme cela, ça marchera. Forcément.
Bien sûr. Ça me fait vraiment penser au fait de jardiner. Ça, si on ça, a envie d'avoir des cerises au printemps ou à l'été.
Arroser régulièrement.
Il faut arroser, il faut s'en occuper, ou si on veut des salades, etc. Et on ne commence pas, quand on se dit « Ah, qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» On ne commence pas à aller dans son carré en disant « Voilà, c'est bizarre, il n'y a rien. » Il n'y a rien, mais ça se prépare. Voilà.
Ça se prépare.
Donc, c'est vraiment une démarche moyen-long terme, j'ai envie de dire. Et ça peut aussi décourager des personnes. Et de se dire, c'est une démarche longue. Donc, ce que tu expliques, c'est que si on le fait un peu tout le temps...
Bah, voilà. La réactivité sera au rendez-vous sera quand on en aura besoin.
C'est ça, c'est ça. Parce que on peut pas dire que c'est comme une personne qui dirait je me brosse les dents que quand je vais à un date. C'est je ça. Pense que la dentition ne serait pas en très bon état.
Exactement. Je pense que au moment du détartrage, tu seras démasqué.
C'est ça. Exactement. Alors, je sors de la métaphore buccale pour aller vers le networking. Là, pour les personnes qui sont à leur compte, les indépendantes, les consultantes, les solopreneuses de façon plus générale. Donc là, il y a vraiment, du coup, un objectif de développement d'activité. Donc, c'est aussi quelque chose de capital. Quels sont, pour toi, si tu devais donner 3 conseils, qui sont des conseils clés, soit quand on démarre une activité indépendante, ou soit quand on a déjà quelques clients, mais qu'on veut amplifier sa croissance, quels sont les 3 pour toi, les 3 conseils clés que tu donnerais à une femme qui veut développer son activité en indépendante?
Alors, en dehors des recommandations que j'ai données sur la posture, qui sont bien évidemment valables à la fois pour les personnes qui travaillent en entreprise et pour les solopreneuses, je dirais qu'il faut avoir un objectif précis. Il convient d'être très très clair sur ce que l'on veut faire avec son réseau et de façon suffisamment smart. Hein, c'est-à-dire, je vais avoir un objectif sur 6 mois, je veux doubler mon chiffre d'affaires sur telle offre, etc., etc. Le plus tu es d'équerre avec l'objectif que tu vas poursuivre, et le mieux tu identifieras les moyens pour y parvenir et la stratégie pour y parvenir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut cartographier son réseau. Parce que, effectivement, tout part de là. Et il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc, il faut le faire, sachant que c'est la qualité qui va primer. On ne va pas passer son temps à amasser des cartes de visite, bien évidemment. Mais on va se dire, je vais identifier, allez, 3 cercles. Mes 3 cercles devront constituer une communauté d'environ 150 personnes. Notre ami Dunbar, fameux anthropologue, a déterminé en 1992 qu'on ne pouvait pas entretenir de relations sociales stables avec plus de 150 personnes. Et donc, cette théorie que j'ai sur les 3 cercles rejoint le résultat de la recherche de Dunbar. Donc, 3 cercles. Le premier, c'est vraiment un tout petit cercle, les intimes. C'est des gens avec qui on a une relation professionnelle, intéressante, et avec qui on est dans l'échange, des mentors, des coachs éventuellement, ou des gens qui ont travaillé avec nous par le passé, avec lesquels on se sent bien, on se sent à l'aise. Des gens qui vont être bienveillants vis-à-vis de nous, qui nous diront les choses, si c'est bien ou si c'est mal, hein, peu importe, mais qui auront un regard critique sur les questions qu'on va leur poser. Donc ça, c'est ce que j'appelle le cercle des intimes. Il doit y avoir 5 personnes, pas plus, là-dedans. Hein. Il doit y avoir ensuite le cercle des networking partners. Donc là, c'est une 50aine de personnes. C'est des gens avec qui on va faire du business. Donc des prestataires, des experts, par exemple, ça peut être des clients, ça peut être des gens avec qui on partage un club d'affaires. Très important, parce que les clubs d'affaires, c'est fait pour échanger des recommandations pour développer son business ensemble. Bien, il y a 25 ou 30 personnes dans le club d'affaires, bien, ces personnes-là, elles font partie du cercle des networking partners. Il ne s'agit pas de faire du business avec ces personnes-là, hein. Il s'agit juste qu'elles sachent exactement ce que tu fais, de sorte qu'elles puissent ensuite parler de toi à leur propre réseau. D'accord ? Donc là, les networking partners, il y a à peu près 50aine de personnes. Et puis ensuite, dernier cercle, le cercle stratégique. Donc là, il y a 100aine de personnes, au grand maximum. C'est les gens qui font partie de ta sphère professionnelle, de ton univers professionnel, de ton secteur d'activité. Et les gens qui doivent te connaître absolument et que toi, tu dois connaître. C'est-à-dire que toi, tu dois savoir qu'ils existent, quelles fonctions ils occupent, etc. C'est peut-être des influenceurs, c'est peut-être des têtes de réseau, c'est peut-être des gens qui sont dans ce secteur d'activité à la pointe, tu vois, ou qui ont 10 ans d'avance sur toi dans ton activité. C'est vraiment le cercle stratégique. Et ces 3 cercles-là nécessitent des contacts réguliers. Premier cercle, 1 fois par semaine. Deuxième cercle, 1 fois par mois. Troisième cercle, 1 fois par trimestre. Quand t'as posé ça, t'as fait la moitié du travail. Hein.
Ah bon, j'ai fait que la moitié.
T'as fait la moitié du travail, mais c'est hyper important parce que qui peut se vanter d'avoir 150 personnes dans son réseau maintenant? On a tous sur LinkedIn, on ne sait pas qui d'ailleurs, ils nous ont demandé en lien et puis on n'a pas dit non parce qu'ils avaient l'air d'avoir une bonne tête et puis une expertise intéressante. T'as peut-être 2000 contacts, 3000, 5000, moi j'en ai 17 000. Évidemment que je ne les connais pas tous. Et évidemment, ils ne sont pas tous nécessairement intéressants par rapport à l'objectif que j'ai aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il faut les identifier et entamer une action construite auprès de chacun d'eux. Mais cette action, elle va être différente en fonction de si, effectivement, ces personnes sont dans le cercle des intimes, des networking partners ou le cercle stratégique.
Est-ce que le but, c'est de faire passer les personnes qui sont dans le cercle stratégique dans le cercle des networking experts?
Alors, ça dépend de quel est ton objectif.
Networking, pardon, partners. Partners, absolument.
Ça dépend de ton objectif. Parce que ton micro-objectif sous ton grand objectif, ça peut être de faire en sorte qu'une super VIP qui fait partie de ton cercle stratégique devienne quelqu'un que tu vas mettre dans ton cercle d'intime.
D'accord. Ok.
Au service de ton projet.
Bien sûr.
Au service de ton objectif. Et ça peut effectivement vouloir dire le fréquenter, participer aux événements auxquels il participe, comment liker ou en tout cas commenter systématiquement ses publications, te rendre visite auprès de lui et faire en sorte que progressivement il s'habitue à toi et que tu sois en capacité de dire « j'aimerais que vous deveniez mon mentor ». Et donc un mentor, ça se met dans le cercle des intimes au bout d'un certain temps. Et un mentor, c'est vachement bien, surtout s'il est super connu. Dans ton secteur d'activité, il va t'ouvrir des portes. Voilà. Donc, ça peut être une des actions que tu vas mener au service de ton objectif de positionner quelqu'un qui est dans le cercle stratégique progressivement dans le cercle des intimes. Mais il y en aura d'autres, des actions, bien évidemment. Peut-être qu'il va falloir que tu réactives les gens avec qui tu bossais dans une vie antérieure, dans une entreprise qui est justement dans le secteur d'activité où tu lances une activité. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est une autre action. Ok, mais tout part de la façon dont tu vas cartographier tes cercles.
Oui.
Et ensuite, partant du principe que pour chaque cercle, il y a une périodicité de recontact à avoir, tout vient naturellement après.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est donc objectif. Ensuite, les cercles.
Oui, la cartographie du réseau.
La cartographie du réseau. Et ensuite, bien évidemment, c'est de bien choisir ses réseaux.
Bien choisir ses réseaux, en lien avec son objectif, j'imagine.
Absolument. Bien souvent, d'ailleurs, on va dans des réseaux parce que nos meilleurs amis nous ont dit « Tu lances une activité, il ne faut pas que tu restes seul. Donc, il faudrait que tu fréquentes tel ou tel cercle. » Et puis, quelqu'un d'autre va te dire quelque chose de complètement différent
oui.
en fonction de la sensibilité qu'il ou elle a.
Bien sûr. Oui, il y en a certains qui vont dire « Il faut absolument que tu sois chez BNI. » D'autres, donc, absolument que tu sois au MEDEF, au CFDJ,
voilà, exactement.
Etc. Oui.
Sauf qu'il ne faut pas les écouter parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à ta place. Ils n'ont pas l'objectif que tu as, d'accord ? Donc, pour leur faire plaisir, tu vas tester parce que peut-être qu'ils ont raison, mais tu vas aussi tester d'autres réseaux et tu vas garder la tête froide et sélectionner les cercles, les réseaux, les clubs qui correspondent à ton objectif, où tu vas rencontrer les bonnes personnes, tes cibles, tes prescripteurs, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Donc, il ne faut pas t'embarquer dans des réseaux qui ne te servent à rien.
Oui, parce que ça peut être l'écueil inverse. On a parlé en début d'émission, on a parlé de genre je suis un petit peu en repli et je ne fais pas du tout de réseautage. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, l'écueil inverse, c'est je réseaute de façon échevelée, un peu adonf, dans tous les sens.
Exactement.
Mais pas forcément d'une façon très construite.
Exactement. Donc en fait, il faut garder son objectif en tête. Parce qu'en fonction de l'objectif que tu as, tu ne vas pas fréquenter les mêmes événements, tu ne vas pas fréquenter les mêmes réseaux, etc. Donc, il faut que tu te reposes la question à chaque fois que tu redéfinis un nouvel objectif.
C'est super puissant, là, ce que tu nous dis. Et oui, à chaque fois qu'un nouvel objectif, peut-être nouveau réseau ou agrandissement d'un des trois cercles dont tu parlais.
Alors, le cercle, généralement, le cercle des intimes et des networking partners, il ne change pas trop. Le cercle des intimes, il ne change pas trop parce que c'est vraiment des gens avec qui on se sent bien et on est vraiment dans la bienveillance et on a construit une relation de confiance. Donc, forcément, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps.
Oui.
Donc, ils ne vont pas changer, ces gens-là, peu ou prou, en fonction de l'objectif que tu as, parce qu'ils seront toujours de bons conseils, d'une certaine façon.
Oui.
Les networking partners, peut-être qu'ils auront tendance à évoluer un peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais en revanche, le cercle stratégique, c'est-à-dire l'univers global lié à l'objectif que tu as aujourd'hui, celui-là, il va changer complètement.
Ok. Ce que j'entends, c'est que vraiment... Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a surprise quand j'ai fait le trait d'union, puisque j'ai fait ta formation, ton accompagnement. Ça a été vraiment un élément de surprise pour moi, à quel point c'est méthodique, en fait. Il y a une vraie méthode Parce qu'en fait, tout le monde file des numéros de téléphone. Moi, j'ai une amie dernièrement qui m'a dit « Oh là, j'ai extrêmement mal au dos et puis personne ne me soulage. » J'ai dit « J'ai un très bon ostéopathe, je te mets en relation avec lui, etc. » Donc en fait, on le fait tous, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. On croit tous finalement que oui, on sait le faire, on sait donner des contacts, etc. Mais une démarche qui est une démarche réseau, j'ai envie de dire professionnelle, on voit bien que c'est aussi différent que de dire je suis une chanteuse sous la douche et je suis une chanteuse qui vit d'opéra. De mon métier. Voilà, ou une chanteuse d'opéra, exactement. Donc ça, c'est ce côté méthodique, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, d'autant plus si on a une activité indépendante. Et on a besoin de ta guidance, je dirais, parce que ça paraît un peu, quand tu l'expliques comme ça, on se dit, mais mon Dieu, c'est un Annapurna à gravir. Grâce à toi, on se rend compte que si on est bien équipé et outillé,
voilà,
tout est là.
Tout est là. Et je dis toujours, le réseau, c'est du temps long. C'est sûr que quand tu veux développer un business en t'appuyant sur un réseau, sachant que faut pas confondre développer son réseau et faire du commercial.
Oui.
Hein, parce que c'est, on commence par développer son réseau et si on le fait bien, peut-être que ça va déboucher sur des partenariats, des échanges commerciaux,
des ventes, etc.
Mais pas avant un certain temps. Hein. On dit toujours, hein, quand on adhère à un business club, il y a du résultat au bout de la troisième année. Hein.
Bon, parfois, ça va un peu plus vite.
Parfois, ça va un peu plus vite si, effectivement, on a affaire à des gens qui sont des professionnels du réseautage.
Oui. Et si on a choisi le bon réseau.
Et si on a choisi le bon réseau, absolument. Je vois que tu as tout à fait compris dans mon propos. Voilà. Le réseau, c'est du temps long. Donc, du coup, en étant accompagné sur une durée, par exemple, de 6 mois, comme je le fais, et au sein d'un collectif, eh bien, tu vas beaucoup plus vite, en fait. Tu disposes d'un certain nombre d'outils que j'ai conçus suite, effectivement, à la longue expérience de cette expertise que j'ai donc depuis tant d'années. Donc voilà, être accompagné sur un process, comme dans n'importe quel coaching, finalement, hein, quand tu fais du coaching, c'est que tu attends un résultat et plus rapide que si tu lisais des bouquins de développement personnel ou si tu regardais des vidéos, machin, etc. C'est ça, hein, en fait. Hein. Eh bien, l'accompagnement sur la structuration d'une démarche réseau te permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement et de dépasser un certain nombre de freins que tu te mets à toi-même, surtout pour les femmes, d'ailleurs.
J'ai une question. Est-ce que tu dirais que, depuis la crise Covid, en fait, depuis 5 ans, est-ce que tu as vu une différence dans la façon de réseauter ? On a eu toute une période où on était confinés, etc. Donc, on n'avait que le digital pour se rencontrer. Est-ce que toi, tu vois une tendance ou est-ce que tu as une prévision pour l'année qui vient, l'année 2026, sur les tendances du networking ?
Il y a bien évidemment l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment optimiser sa démarche réseau pour trouver les bonnes personnes, pour mieux cibler les personnes que tu souhaites rencontrer. Ensuite, une fois que tu as rencontré les bonnes personnes, mieux préparer les entretiens que tu vas avoir avec les personnes que tu approches, plutôt que de chercher finalement tout seul quelles questions vont te rendre intéressantes auprès de ces personnes-là. Et bien, grâce à l'intelligence artificielle, bien évidemment, il faut lui donner à manger à l'intelligence artificielle, hein, mais tu auras des points d'entrée beaucoup plus justes et appropriés. Tu vas pouvoir aussi, encore une fois, en sachant bien évidemment t'adapter, mais publier peut-être plus facilement, plus régulièrement, développer ta visibilité. Donc effectivement, une grosse importance de l'intelligence artificielle pour mieux réseauter. Sauf que moi, je dis que plus il y a d'automatisation et plus finalement, ce qui va faire la différence entre les gens, c'est la qualité des interactions relationnelles. Donc, en parallèle du développement de l'intelligence artificielle, pour moi, le networking dans la vraie vie a de très, très beaux jours devant lui. Ce qui va faire la différence entre deux personnes à compétences égales pour un client, c'est celui avec qui tu t'entendras le mieux. Il aura expérimenté la relation comme auparavant. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est les tendances que je vois. C'est plus d'intelligence artificielle, certes, pour optimiser la démarche réseau et le réseautage et les techniques de réseautage, plus de relationnel dans la vraie vie en parallèle.
Oui, donc le présentiel, pour toi, là, ça revient en force.
Ah ben, Carrément.
Oui, ça revient en force. Oui, carrément. Moi, je le vois, je vois les événements présentiels auxquels j'assiste. Parmi ceux-là, il y a aussi ceux que tu organises à Paris. Je vois vraiment, c'est une joie, en fait, de se retrouver, de se voir en vrai. Parce qu'on peut se connecter sur les réseaux et tout, mais rien ne vaut le présentiel,
je trouve. Il va falloir développer, d'ailleurs, à mon avis, de plus en plus de créativité sur, justement, le réseautage dans la vraie vie, dans le cadre de ces événements-là. Tu vois, tu parles des événements que j'organise. J'essaye de mettre un point d'honneur à faire vivre aux gens qui participent de vraies expériences de réseautage. Qui n'ont rien à voir avec les échanges un peu traditionnels, les speed meetings, etc., qui sont très bien.
Je
dénigre absolument pas. Hein,
bien sûr.
Condition que ce soit bien fait, que ce soit suivi, fait a posteriori. Mais je pense que tu marques les esprits quand tu fais vivre aux gens des expériences un peu originales. Et tu marques les esprits et en même temps, tu te souviens mieux des personnes avec qui tu as partagé ces expériences. Parce que justement, c'était des expériences qui ont marqué.
Oui, qui ont touché les émotions, en fait.
Qui ont touché les émotions, voilà, exactement.
C'est ça, exactement ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus si on a envie de travailler avec toi, si on a envie de construire une démarche réseau qui soit intelligente, pertinente et qui serve nos objectifs, hein, qu'on soit une entrepreneuse ou qu'on soit par exemple une cadre en entreprise. Alors comment est-ce qu'on fait pour connecter avec toi et pour travailler avec toi et comment ça se passe, surtout comment ça se découpe ton programme ?
Alors, merci de me poser cette question car j'ouvre une nouvelle promotion du Trait d'Union le 13 janvier prochain. Le Trait d'Union, c'est un programme de 6 mois ou 3 mois. Mais disons que la version que je préconise, la version de 6 mois, parce que 3 mois, ça me semble un tout petit peu court quand même, prendre le temps. Hein. Donc c'est un programme collectif où on va apprendre à réseauter au sein d'un groupe d'une dizaine de personnes, de 8 à 10 personnes, à raison d'une séance de 2 heures tous les 15 jours à l'heure du déjeuner, entre midi et 14 heures. On a un programme, bien évidemment, qu'on suit, hein, la posture du parfait réseauteur, les grands principes, parce que c'est très important, je parlais tout à l'heure de Dunbar, de les connaître pour mieux comprendre pourquoi on doit faire ce qu'on doit faire.
Hein. Bien sûr.
Donc, les grands principes, les principaux outils, comment on fait avant, pendant, après un événement, comment on fait avant, pendant un rendez-vous réseau, comment est-ce qu'on recommande, qu'est-ce qu'on doit faire pour choisir le bon club, on en parlait tout à l'heure. Et puis enfin, on a 3 séances à la fin qui sont dédiées complètement à l'élaboration de la feuille de route, où c'est un vrai travail d'intelligence collective, où chacun passe sur le grill pendant 3 quarts d'heure et repart de là avec
son plan d'action.
Les premières actions et les premières déclinaisons opérationnelles des actions à mettre en œuvre à la fin du trait d'union.
J'imagine qu'il y a des personnes qui ont déjà des premiers résultats de leur démarche réseau pendant le programme.
Que, bah oui, parce qu'on y vient avec un objectif. Mais c'est vrai qu'on est obligé de revoir l'objectif assez régulièrement parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure du trait d'union, l'objectif évolue. Donc maintenant, effectivement, je prends la peine de m'arrêter une fois quasiment tous les 2 mois, 2 mois et demi pour valider qu'on est toujours sur le même objectif. C'est un voyage, une transformation. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on rejoint une communauté donc de personnes qui ont déjà fait cette formation et on retrouve cette communauté à plusieurs reprises dans l'année lors d'événements qui sont de véritables expériences de réseautage. Et dans le cadre de ces événements, eh bien, il y a parfois des collaborations qui naissent, qui évoluent et qui fructifient. Voilà.
Super. En tout cas, je peux témoigner à quel point c'est intéressant et c'est vraiment transformateur sur la façon effectivement d'activer son réseau, de le construire, de le faire grandir. C'est une vraie démarche aussi humaniste parce qu'on rencontre des gens qui sont fabuleux. Les personnes qui font le programme, c'est toi qui les sélectionnes. Donc, on n'a que des gens qui sont adorables. Et c'est vraiment agréable, du coup, de se retrouver tous les 15 jours. Je peux en témoigner.
On n'y va pas à reculons, ça, c'est sûr. C'est plutôt dans la joie et la bonne humeur.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on aime. Merci beaucoup, Isabelle Stemmer, de m'avoir accordé ce temps. Je trouve vraiment que ça donne envie quand tu parles de la façon dont tu envisages le réseautage. Je mettrai toutes les informations pour pouvoir rentrer en contact avec toi dans la description de cet épisode. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026 ? Tiens, voilà la question pour clore.
Il se trouve que j'ai des ambitions pour le trait d'union. Je n'ai pas tellement envie d'en parler encore. C'est peut-être un peu prématuré. Mais ma mission de vie, c'est justement de diffuser la culture du réseau. Et le trait d'union, c'est une étape pour aller vers un peu plus grand.
Je sens qu'il y a encore un petit peu de secret, de mystère que tu veux, que tu entretiens, que tu veux garder pour toi. Mais on va de toute façon, enfin, les personnes qui nous écoutent vont aller, vont se connecter avec toi sur LinkedIn. Elles pourront savoir quand tu auras The Big Reveal. Elles seront aux premières loges pour savoir ce que tu as à nous proposer. Merci encore. Et puis, moi, je te souhaite plein de belles choses. On est en contact de façon régulière. Donc voilà, plein de belles choses pour 2026.
Merci, Marielle. À toi aussi.
Merci à toi. Speech Society. Vous voulez des conseils bonus sur l'art oratoire et être informé des actus de Speech Society? Abonnez-vous à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Un cadeau vous attend, la checklist des 10 incontournables de la prise de parole à enjeu, à télécharger dans la première newsletter. Et si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, pensez à lui mettre des étoiles. Ça aidera d'autres femmes à le découvrir. C'est aussi ça, la sororité. Rendez-vous dès lundi prochain pour notre épisode flash sur les tips de la prise de parole en public. À très bientôt. Et d'ici là, mesdames, n'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la. Cet épisode a été enregistré au Studiomatique de Paris-Bastille. À la prise de son, Marion Armango de Make Some Noise. Au montage et à l'habillage, Bruno Chantepie. Musique, artlist.io.